Romains chapitre 1, versets 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je vais donc commencer toute une série dans cette épître aux Romains, un livre absolument magnifique, grandiose, qui nous permet de comprendre l'Évangile comme, j'ose dire, aucun autre texte du Nouveau Testament. Cette épître a eu une influence extraordinaire dans l'histoire de l'Église. Et en guise d'ouverture de cette série, j'aimerais parler de trois témoins, en quelque sorte. Saint Augustin, père de l'Église, Martin Luther, le grand réformateur allemand, et John Wesley, grand évangéliste anglais du XVIIIe siècle. Et on va écouter leur témoignage et comment cette épître aux Romains était à l'origine de leur conversion. Commençons donc avec Saint Augustin, vers la fin du IVe siècle, père de l'Église certes, mais qui avait vécu une jeunesse dissolue, en quittant sa petite ville en Tunisie pour se rendre à la capitale, Carthage. Pour faire ses études, il a découvert une ville, comme il a décrit plus tard, entièrement donnée à l'immoralité. Et il s'est mis en ménage avec une femme, avec qui il a eu un enfant d'ailleurs. Mais plus tard, il a quitté Carthage, à la recherche de la gloire en quelque sorte. Il s'est rendu à Rome et plus tard à Milan. Et c'est là, à Milan, qu'il a rencontré des chrétiens, dont l'évêque de Milan et puis un ami Alypius, dont il sera question tout à l'heure. N'empêche, là, de nouveau, pendant 2 ans, il a vécu en ménage avec une jeune femme. Et nous lisons dans son œuvre les Confessions, comment il est arrivé à la conversion. Les Confessions sont en quelque sorte une première dans l'histoire de la littérature, une vraie œuvre autobiographique, même si en fait ses pensées sont adressées à Dieu, d'où un certain tutoiement que l'on va voir dans le texte. Je lis donc ce récit de sa conversion avec les mots mêmes d'Augustin. Donc au début de ce texte, il se trouve chez son ami Alypius. Il se leva dans mon cœur une grosse tempête, chargée d'une grosse pluie de larmes. Et pour laisser crever l'orage tout entier avec ses fracas, je me levai et je m'écartai d'Alypius. La solitude s'offrait à moi comme un endroit plus propice au travail des larmes. Je me retirai assez loin, ainsi même la présence d'Alypius ne pourrait pas m'être à charge. Tel était alors mon état. Il comprit. Oui, sans doute, j'avais dit que je ne sais quoi d'un ton de voix qui paraissait déjà gros de larmes, et c'est alors que je m'étais levé. Lui demeura donc à l'endroit où nous étions assis. Il était au comble de la stupeur. Moi, je m'abattis, je ne sais comment, sous un figuier. Je lâchai les rênes à mes larmes. Elles jaillirent à grands flots de mes yeux. Sacrifice qui te fut agréable, Seigneur. Je ne garantis pas les termes, mais voilà le sens. Je te dis sans retenue. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, iras-tu au bout de ta colère? Ne garde pas mémoire de nos vieilles iniquités. De fait, je sentais que c'était elle qui me retenait. Je jetais des cris pitoyables. Dans combien de temps? Dans combien de temps? Demain, toujours demain. Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas sur l'heure en finir avec mes turpitudes? Je disais cela. Je pleurais dans la profonde amertume de mon cœur brisé. Et voici que j'entends une voix venant d'une maison voisine. On disait en chantant, et l'on répétait fréquemment avec une voix comme celle d'un garçon ou d'une fille, je ne sais, « Prends, lis, prends, lis », en latin « tolle, legge ». À l'instant, j'ai changé de visage, et l'esprit tendu, je me suis mis à rechercher si les enfants utilisaient d'habitude dans tel ou tel jeu une ritournelle semblable. Non, aucun souvenir ne me revenait d'avoir entendu cela quelque part. J'ai refoulé l'assaut de mes larmes et je me suis levé en voyant plus là qu'un ordre divin qui m'enjoignait d'ouvrir le livre et de lire ce que je trouverais au premier chapitre venu. Aussi, en toute hâte, je revins à l'endroit où Alypius était assis. Oui, c'était là que j'avais posé le livre de l'apôtre Paul tout à l'heure en me levant. Je saisis, je l'ouvris. Et j'ai lu en silence le premier chapitre où se jetèrent mes yeux. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est Romains 3, 13, versets 13 et 14. Je ne voulais pas en lire plus. Ce n'était pas nécessaire. À l'instant même, en effet, avec les derniers mots de cette pensée, ce fut comme une lumière de sécurité déversée dans mon âme. Et toutes les ténèbres de l'hésitation se dissipèrent. Alors, j'intercalai le doigt ou je ne sais quel autre signe dans le livre que je fermais, puis le visage désormais paisible, je mis Alypius au courant. Voilà donc le premier témoignage, Augustin, avec les paroles de Romains 13, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Maintenant, un deuxième témoignage, celui de Martin Luther, le réformateur allemand. Là, maintenant, on est au début du XVIe siècle. Bon, je rappelle que Luther avait fait des études. Ses pères en particulier avaient réussi à mettre de l'argent de côté pour lui payer des études. Mais un soir, Luther traversait un champ, il y avait un gros orage, et il a fait une prière. « Seigneur, si tu me délivres de cet orage, si je ne meurs pas, je te servirai toute ma vie. » Et il a échappé en fait à la foudre, et il a pris au sérieux son vœu en quelque sorte, et il s'est fait moine. Alors que son père était très agacé de cette décision. Mais ce n'est pas pour autant que Luther a trouvé la paix du cœur. Et on est là dans les environs de 1512. Et le responsable du monastère, peut-être un peu inspiré dans le choix de métier qu'il a proposé, a demandé à Martin Luther d'apporter des cours d'enseignement biblique à l'université de Wittenberg et a proposé que Luther enseigne l'épître de Paul aux Romains. Donc Luther a commencé à étudier ce texte Et voilà son témoignage. Je lis. J'avais brûlé du désir de bien comprendre un terme employé dans l'Épître aux Romains, au premier chapitre, là où il est dit « La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile ». Car jusqu'alors, j'y songeais en frémissant. Ce terme de « justice de Dieu », je le haïssais, car l'usage courant et l'emploi qu'en font habituellement tous les docteurs m'avaient enseigné à le comprendre au sens philosophique. J'entendais par là la justice formelle ou la justice active, une qualité divine qui pousse Dieu à punir les pécheurs et les coupables. Malgré ma vie irréprochable de moine, je me sentais pécheur aux yeux de Dieu. Ma conscience était extrêmement inquiète et je n'avais aucune certitude que Dieu fût apaisé par mes satisfactions. Aussi, je n'aimais pas ce Dieu juste et vengeur. Je le haïssais. Et si je ne blasphémais pas en secret, certainement je m'indignais et murmurais violemment contre lui, disant « N'est-il pas suffisant qu'il nous condamne à la mort éternelle à cause du péché de nos pères et qu'il nous fasse subir toute la sévérité de sa loi? Faut-il qu'il augmente encore notre tourment par l'Évangile et que même là il nous fasse annoncer sa justice et sa colère ?» J'étais hors de moi, tant ma conscience était violemment bouleversée, et je creusais sans trêve ce passage de saint Paul dans l'ardent désir de savoir ce que l'apôtre avait voulu dire. Enfin, Dieu me prit en pitié. Pendant que je méditais, nuit et jour, et que j'examinais l'enchaînement de ces mots, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit. De juste vivre par la foi, je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu donne et par laquelle le juste vit, s'il a la foi. Le sens de la phrase est donc celui-ci. L'Évangile nous révèle la justice de Dieu, mais cette justice est la justice passive par laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie au moyen de la foi. Aussitôt, je me sentis renaître et il me sembla être entré dans des portes largement ouvertes au paradis même. Dès lors, l'Écriture tout entière prit à mes yeux un aspect nouveau. Je parcourus les textes comme mes mémoires me les présentaient et notai d'autres termes qu'il fallait expliquer d'une façon analogue. La puissance de Dieu par laquelle il nous donne la force, la sagesse par laquelle il nous rend sage, etc. Autant j'avais détesté ce terme de justice de Dieu, autant j'aimais, je chérissais maintenant ce mot si doux. Et c'est ainsi que ce passage de saint Paul devint pour moi la porte du paradis. Puis le troisième témoignage, c'est celui de John Wesley. Donc, je rappelle aussi, John Wesley était étudiant qui cherchait à vivre une foi chrétienne alors qu'il se trouvait à Oxford. Il a même créé un club qu'on appelait les méthodistes, où il était très méthodique pour étudier la Bible, pour prier, pour se réunir et ainsi de suite. Et il devint même pasteur anglican, sans avoir encore la notion du salut. Alors, en tant que pasteur anglican, il avait même demandé à aller aux États-Unis, en Amérique, pour apporter l'Évangile aux Indiens. Il a fait ce voyage, sans beaucoup de réussite d'ailleurs, mais sur le chemin du retour, le bateau a rencontré une grosse tempête. Et Wesley était sûr que le bateau allait couler, qu'elle allait se noyer au milieu de l'Atlantique. Et à ce moment-là, il entendait dans le bateau un autre groupe de chrétiens, de frères moraves, qui chantaient. Il était assez étonné, il est allé les voir pour dire « Mais comment est-il possible de chanter alors qu'on risque la mort d'un instant à un autre ?» Et le pasteur morave a dit, mais nous ne craignons rien, nous avons la vie éternelle. Et il a posé la question à John Wesley, bon, Jésus n'est-il pas votre sauveur? Et la seule réponse que Wesley a pu trouver, c'était, je sais qu'il est le sauveur du monde. Finalement, la tempête s'est apaisée. Ils sont arrivés sains et saufs à Londres et John Wesley décide d'aller voir ses frères moraves et assister à une réunion. Et voilà un témoignage un peu plus court, les paroles mêmes de Wesley. Dans la soirée du 24 mai 1738, je me rendis à contre-cœur à une réunion des moraves dans Aldersgate Street, où j'entendis lire la préface de Luther à l'épître aux Romains. Vers 9h moins le quart, en entendant la description qui fait du changement que Dieu opère dans le cœur par la foi en Christ, je sentais que mon cœur se réchauffait étrangement. Je sentais que je me confiais en Christ seul, pour mon salut. Et j'ai reçu l'assurance qu'il avait ôté mes péchés et qu'il me sauvait de la loi, du péché et de la mort. Voilà donc trois témoignages historiques et je pense que d'autres personnes jusqu'à nos jours pourraient apporter le même témoignage que cet épître a été un élément important dans leur conversion et dans leur vie chrétienne. Alors, quelques mots d'explication pour terminer cette introduction à l'Épître aux Romains avec cinq petites questions. D'abord, la question qui a écrit cette lettre. Et nous voyons donc les premiers mots. C'est Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Donc vous savez que dans l'Antiquité, les lettres commençaient toujours en annonçant l'auteur, Paul, ensuite « à », avec les destinataires, et une sorte de formule de politesse ou de salutation après. C'est un peu l'ordre inverse de nos lettres à nous. Donc c'est Paul qui écrit, et il se décrit comme « apôtre ». Donc ce mot « apôtre », Apostolos veut dire littéralement envoyé. Et on l'utilise dans le Nouveau Testament dans deux sens. D'abord, il y avait les 12 apôtres, les 12 disciples que Jésus avait choisis. Et on lit au début du livre des Actes, puisqu'ils n'en sont plus que 11 après le suicide de Judas, que Pierre propose d'élire ou de choisir en fait par le tirage au sort le 12e apôtre. Le sort tombe sur un illustre inconnu, Matthias, on ne sait rien de lui. Mais je pense que dans la pensée de Pierre, il en fallait 12 parce que c'était un peu l'équivalent dans le Nouveau Testament des 12 tribus d'Israël. Quoi qu'il en soit, Paul lui-même se décrit comme apôtre dans ce sens-là. Et la raison, c'est, Pierre la donne lui-même dans Actes chapitre 1, qu'il fallait choisir quelqu'un qui soit, je cite, « témoin de la résurrection de Jésus ». Et c'est ainsi que Paul se décrit aussi dans 1 Corinthiens 15. Il a vu Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Mais il y a un deuxième sens que l'on peut donner à ce mot « apôtre », un sens beaucoup plus général, qui concerne beaucoup plus de chrétiens, parce que c'est simplement le mot « envoyé et on a l'équivalent en latin « missionnaire ». Et Paul, dans Actes 13, avec son compagnon Barnabas, a été consacré en quelque sorte comme missionnaire. Ils sont partis en voyage missionnaire à partir de l'église d'Antioche. Donc voilà, vous pouvez lire le récit dans Actes 13, versets 1 à 4. Donc voilà, première question, qui a écrit cette lettre? C'est l'apôtre Paul. Deuxième question, à qui l'a-t-il écrite? Eh bien, ce sont les chrétiens à Rome, qui n'avaient pas vu d'ailleurs la plupart des lettres de Paul, il les a envoyées à des églises qu'il avait connues, mais il n'avait pas pas mis les pieds à Rome, même si en fait il connaissait un certain nombre de chrétiens de Rome, soit personnellement ou par réputation. Et le chapitre 16 comporte une liste de salutations. À l'époque de l'Empire romain, les gens voyageaient pas mal de gré ou de force. Donc il avait rencontré un certain nombre de ces chrétiens. Et il écrit donc à tous ceux qui sont à Rome. Et il est plus que probable que dans cette grande ville, que tous les chrétiens ne se réunissaient pas tout le temps ensemble, qu'il y avait plutôt des petites églises de maisons, et on trouve encore quelques traces au chapitre 16, par exemple au verset 4, 3, 4 et 5, où il salue Prisca et Aquilas, et l'église qui est dans leur maison. Au verset 14 du chapitre 16, saluer Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Et la même chose au verset 15, saluer Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Donc c'est Paul qui écrit aux chrétiens de Rome. Troisième question, pourquoi a-t-il écrit cette lettre? Là, il faut le situer dans le contexte historique. Paul venait de passer une dizaine d'années, à peu près l'an 47 à 57, à évangéliser les régions qu'on appelle aujourd'hui la Turquie et la Grèce. Et il a passé l'hiver 56-57, peut-être 57-58, mais il a passé l'hiver à Corinthe, chez son ami Gaius. Il en est question aussi dans Romains 16 et le verset 23. Je cite, Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Donc, Paul passe l'hiver chez Gaius, et qui est à Corinthe, et il se prépare pour faire un voyage, d'abord à Jérusalem, pour remettre aux chrétiens de Jérusalem la collecte faite par les églises des non-juifs, pour secourir les chrétiens pauvres de Jérusalem. Paul tenait à cela parce qu'il voulait en quelque sorte établir une vraie solidarité entre les juifs chrétiens et les non-juifs chrétiens. Mais il voyait beaucoup plus loin parce qu'en fait, après son voyage à Jérusalem, il voulait aller en Espagne et en passant par Rome. Il explique à la fin des Romains, on va anticiper un petit peu, et je lis à partir du verset 20 du chapitre 15. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Et puis verset 23, mais maintenant n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, là où il était, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Mais maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, donc c'est la collecte, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Je saute au verset 28. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Et je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Donc le pourquoi de la lettre, c'est qu'il prépare son voyage en Espagne en passant par Rome. Quel est le sujet de cette lettre? Quatrième question. Eh bien, c'est tout simplement l'évangile, la bonne nouvelle. Et en particulier, on le voit au verset 4 du chapitre 1 que nous avions lu tout à l'heure, il parle de l'évangile qui concerne le Fils. de Dieu. Donc tout tourne autour de Jésus, le Christ, le Messie, notre Seigneur. Et l'apôtre va développer le thème de l'évangile jusqu'au chapitre 8. Après, il y aura un développement au chapitre 9, 10 et 11 sur la place des Juifs dans l'Église et dans l'histoire de la révélation de Dieu. Et à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin de la lettre, toute une section qui part du comportement du chrétien qui découle de l'Évangile. Cela, on le voit déjà au premier verset du chapitre 12. « Je vous exhorte donc. » On s'embarque donc pour un long voyage dans les Romains. Dernière question. Quelle est la salutation de Paul au début de cette lettre? Eh bien, c'est le verset 7. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et on va retrouver ces termes à plusieurs reprises dans cette lettre. Et je termine avec cela. La grâce, le chapitre 3 et le verset 24 dit que, puisque nous sommes pécheurs, mais les chrétiens sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et en ce qui concerne la paix, c'est le chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà donc une introduction, et à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à regarder le texte de près pour voir tout le développement magnifique de l'apôtre en ce qui concerne l'Évangile.